Il est 17h28, on entre dans la data room. C'est le détecteur de mensonges de BFM Bourse. Les datas ne mentent pas. Elles révèlent même une part de vérité cachée dans les marchés. Vous allez, cette part de vérité, messieurs, nous la faire voir. Louis et Christian, êtes-vous prêts ?
Oui.
Oui.
Vous avez chacun une minute trente pour présenter une data forte qui en dit sur les marchés plus qu'un long discours. Christian, on va démarrer avec vous. Votre chiffre est porteur d'espoir pour les marchés. 20 800 milliards de dollars.
Oui, 20 800 milliards de dollars, c'est la masse monétaire. Au sens M2, c'est-à-dire les liquidités présentes dans l'économie américaine. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir si elle augmente ou si elle baisse, parce que si elle diminue, ça signifie que la Banque centrale américaine, la Federal Reserve, est restrictive. Si elle augmente, elle passe accommodante. Or, si on regarde les chiffres, au plus haut, quand ça a été la gabegie, la dépense monétaire, l'achat d'obligations pendant le Covid, on était monté à un total de 21 660 milliards de dollars. Et puis, elle n'a pas arrêté de baisser depuis que la Federal Reserve est devenue restrictive. Pour ceci, elle a augmenté ses taux d'intérêt, elle a restreint le crédit, les conditions financières, la base monétaire a baissé. Et elle atteignait en octobre dernier, c'est vraiment pour moi la date clé, d'ailleurs c'est le début de la hausse des marchés, 20 690 milliards de dollars. Alors aujourd'hui, 20 800, c'est pas encore vraiment une hausse, mais quand on regarde cette courbe, ça veut dire que ça s'aplatit. Il semblerait que la Fed, voilà, arrête de restreindre les liquidités. Et la phase d'après, pour que les liquidités augmentent, faut qu'on ait envie de faire du crédit. Donc, faut que les banques viennent chercher de l'argent à la Federal Reserve. Et pour leur donner envie, c'est la baisse des taux. C'est pour ça que tous les spécialistes la voient pour cet été, pour qu'à nouveau on redemande du crédit, ce qui va recréer de la masse monétaire. Ça se présente bien.
Ça se présente bien, et ça, les marchés l'ont en tête, c'est une des clés de leur solidité et des records récents en bourse. Christian, vous vous êtes livré, Louis, à votre tour. Votre data, plus 0,1%.
Oui, plus 0,1%, c'est le LEI aux États-Unis, c'est le Leading Economic Index. Vous savez, c'est un indicateur avancé de croissance aux États-Unis. Et donc là, ça fait 2 ans, depuis février 2022, que l'indice fait que de baisser. Et normalement, quand cet indice baisse, un indicateur avancé sur une entrée en récession de l'économie américaine. Ah. Et on va vous dire, est-ce que cet indicateur marche encore? Ça a toujours marché dans le passé, et là, normalement, ça fait 2 ans, rappelez-vous, ça fait 2 ans qu'on pense qu'on va rentrer en récession, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et on n'est pas rentré. Donc, est-ce que c'est bon ou pas? Donc, la question, c'est de dire que finalement, on n'est pas rentré en récession parce qu'il y a eu des déficits énormes aux États-Unis, comme on a parlé tout à l'heure, qui a tiré la croissance. Les Américains aussi ont puisé dans leur épargne pour toujours consommer encore plus. Donc voilà, donc là pendant 2 ans il est en baisse et c'est la première fois depuis février 22 qu'il remonte en hausse. Donc ça corrobore un peu ce qu'on disait, c'est un peu les indices PMI qui étaient au plus bas qui commencent à remonter. Donc on passera peut-être de bad news is good news dans les marchés à good news is good news. Donc ça veut dire que si ce LEI se confirme et revient dedans, c'est vrai que pour la première fois il va y avoir une réaccélération de la croissance aux États-Unis. Mais pas de façon artificielle par les publics budgétaires et les épargnes, mais peut-être par la vraie économie. Et c'est pour ça que peut-être que le marché va enfin saluer good news et good news, et donc enfin que le marché va remonter par le relais des bénéfices par action, et plus, comme on disait tout à l'heure, sur le P du PE, donc sur le pricing.
Effectivement, parce que pendant plus d'une dizaine d'années, depuis la crise Lehman, les marchés montaient, mais surtout grâce aux banques centrales, là on est en train de remettre à l'endroit les économies quand même. C'est intéressant ce qui est en train de se passer. Et pour l'instant, ça se fait relativement sans douleur, même si beaucoup de secteurs sont encore en retard par rapport aux plus grosses valeurs de la cote. Mais c'est encourageant, c'est un bain de jouvence, là, beaucoup d'optimisme, ces deux chiffres plutôt prometteurs que vous nous proposez l'un et l'autre, c'est la data room chaque jour. On va rester dans le positif, avec une valeur qui aujourd'hui se distingue. Ce titre gagne plus de 12% à quelques instants de la clôture. 12% de hausse, le titre Ruby, Vincent Bolloré. Louis, vous avez travaillé le dossier aujourd'hui. Vincent Bolloré franchit la barre des 5% du capital. Est-ce que ça mérite une telle hausse de 12,5%?
Ouais, je pense que oui. Parce que Ruby, il faut savoir, c'était vraiment la valeur star des années, fin des années 99. Vous savez, quand c'était hors film, la société Picciotto qui était rentrée dedans, ils avaient vraiment fait un énorme carton. Et c'est vrai que depuis 5-6 ans, la société est complètement tombée en désuétude. Et là, la famille Bolloré, à travers la plantation de terres rouges, vient de prendre 5% du capital. Et comme par hasard, ça arrive quelques jours après la décision de Ruby de vendre leur stratégie, vous savez, ce qu'on appelle la partie Ruby Terminal, à un fonds américain qui s'appelle Square Capital. Donc on peut penser que Vincent Bolloré, qui connaît très bien ce secteur-là, donc il rêverait peut-être de le récupérer dans Bolloré Énergie, parce que maintenant qu'il a cédé toute la partie logistique, maintenant il a plein de cash, donc c'est de nouveau un nouveau raid qui pourrait refaire. Et le problème de Ruby, pendant très très longtemps, c'était un peu, ça nous rappelle un autre dossier français qui est Lagardère, c'est que le problème, c'est que c'est une commandite. Et aujourd'hui, il faut savoir que les deux fondateurs, Gilles Bodin et Jacques Rioux, ont plus que 2% du capital et ils détiennent donc toute la gestion de la société qui est avec 2%. Et on peut penser que Vincent Bolloré va devoir faire un raid, peut-être qu'il va faire voler en éclat cette commandite comme il l'avait fait chez Lagardère.
Sauf que Ruby va beaucoup mieux que Lagardère quand même.
Voilà. Ruby va quand même un peu mieux, sachant que les niveaux de valorisation sont revenus au plus faible. On est à peine une fois les fonds propres. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde s'est focalisé sur la famille Bolloré, mais au même moment, un autre acteur important maritime a déclaré aussi une hausse de 5% au même moment. La famille Molis, vous savez, ceux qui étaient dans la CNIM, donc dans tout ce qui est maritime. Comme par hasard, moi je pense que les deux, on verra plus tard, vont certainement agir de concert. Donc c'est vrai que l'affaire est importante et je comprends totalement que l'action monte de 12%. Il y a le broker indépendant Odo qui est passé à l'achat, notamment sur spéculation, et le titre reste sous-valorisé. Donc je pense que Ruby à suivre de très près.
Vous estimez que Vincent Bolloré ne va pas s'arrêter là dans Ruby ou autour de Ruby. C'est un peu l'idée et peut-être le pari des marchés aujourd'hui. Plus 12,5% Ruby, 31,62€ à quelques instants de la clôture. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. La Data Room, chaque soir juste avant la clôture. Louis Defez pour Gay-Lussac Gestion. Christian Bitot, professeur de finance à l'ESSEC. Et qui nous a accompagnés aussi sur le Bullshitomètre. Vous croyez dans le potentiel du marché japonais. Hein. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Malgré la natalité qui baisse, la démographie déclinante, au point que l'un des principaux fabricants de couches au Japon renonce à fabriquer des couches pour bébés. Il se concentrera désormais sur les couches pour adultes. On en est là au Japon.
Vous en remettez une couche.
Oui. Mais vous estimez que le marché japonais reste quand même fécond, lui, et qu'il n'est pas trop tard pour y investir. Bullshitomètre à retrouver lui aussi en replay sur notre site. Merci beaucoup, messieurs.